La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Pour la plupart, nous ne connaissons pas son nom. Pourquoi sauriez-vous, en effet, qu'un jeune artiste appelé Bas Jan Ader, qui commença à travailler au milieu des années 60 en Hollande et mourut en mer à peine quelques années plus tard, au milieu de l'Atlantique, à 33 ans, en ayant réalisé très peu d'œuvres, peu de dessins, quelques rares performances filmées par sa femme, Mary Sue, est devenu pour les artistes d'aujourd'hui une référence. Un artiste qu'aiment les artistes. Un artiste pourtant plutôt silencieux, dont on scrute les expressions alors qu'il se met à pleurer dans un court film noir et blanc de 2 minutes. Son visage est beau, attachant, mince, captivant. Il va pleurer, il pleure, mais on ne saura jamais pourquoi, car le film s'intitule « Je suis trop triste pour vous dire. I am too sad to tell you. » Bas Jan Ader avait fait de la chute le sujet de son œuvre. Tombé d'un arbre, d'une chaise, d'un toit, tombé en bicyclette, dans un canal à Amsterdam, sans que jamais ce ne soit grotesque, ni drôle, ni insignifiant. Tombé comme une larme qui coule sur une joue et vérifier ce qu'il y aurait de grave dans la gravité. Bas Jan Ader peut être résumé par sa quête qui a pris de nombreuses formes sous un intitulé devenu mythique. In search of miraculous, à la recherche du miraculeux. Thomas Giraud, écrivain, vient de publier aux éditions de la Contre-Allée une conversation imaginaire avec l'artiste. Une conversation, c'est trop dire, car l'artiste ne lui répond jamais. Disons plutôt une adresse où il l'entretient de sa vie, de ses performances et l'accompagne littérairement sur son petit bateau Ocean Waves jusqu'au naufrage. Une des seules fois, dit l'auteur, où, avec toi, c'est vers le haut que les choses sont tombées. Pour en parler, je suis avec l'auteur de ce livre, avec Bas Jan Ader, Thomas Giraud. Bonjour Thomas, comment allez-vous?
Très bien, je vous remercie.
J'étais très surpris de voir ce personnage que seuls quelques amateurs d'art contemporain, et quelques artistes même plus particulièrement d'ailleurs, connaissent. On a vu une exposition au Bal, il y a 4 ou 5 ans je crois, ce lieu remarquable d'art contemporain plutôt consacré à la photographie qui est à Paris. Et tout d'un coup je vois ce caprice que vous avez eu de faire un livre, mais un livre n'est jamais un caprice.
Non, c'est pas tout à fait un caprice, c'est une sorte de nécessité qui s'est imposée quand moi j'ai découvert l'existence de Bas Jan Ader, parce que je ne suis pas artiste et c'est pas quelqu'un avec qui je naviguais depuis un certain nombre d'années.
C'est plus sûr de ne pas naviguer avec Bas Jan Ader sur son petit bateau de 4 mètres et demi et qui a fait naufrage, on ne sait pas très bien où, entre l'Irlande et l'Amérique.
Voilà, où il a disparu en 1975 et donc c'est quelqu'un, une figure qui est entrée dans ma vie il y a à peu près 4 ans et qui m'a fasciné, je pense de la même manière qu'il fascine beaucoup d'artistes, à la fois pour le peu d'œuvres qu'il a faites, à la fois pour le sens de ses œuvres, enfin, ou la polysémie qu'on peut y trouver, et également cette dernière performance au terme de laquelle il a disparu, à la recherche du miraculeux, qui en tout cas agitait chez moi beaucoup de choses à la fois symboliques, orgueilleuses et un mélange aussi de gravité, de un petit peu tout ce que vous avez dit finalement, cette d'audace, de gravité, de modestie. Il me semblait qu'il y avait chez lui à la fois cette personne fulgurante et à la fois quelqu'un plein de paradoxes, et ça m'a d'emblée vraiment fasciné dès la première chute que j'ai vue en réalité.
Toujours en maintenant l'élégance, parce que c'est un artiste chez lequel la notion d'élégance est toujours présente, me semble-t-il. Il y a une esthétique du comportement.
Oui, oui, il y a... Alors, ça part déjà de lui-même, je trouve, de
sa silhouette,
assez longue, allongée, de sa manière d'être, de sa discrétion. Si on sent une forme de discrétion, vous avez évoqué le silence, même dans ses performances, elles sont toujours muettes, donc ça laisse une grande place à l'imagination. Et avec cette, au risque un peu de me répéter, mais ce mélange de choses qu'on saisit pas très bien entre l'audace, parfois peut-être l'idiotie, ou une grande gravité, enfin un sentiment de quelque chose qu'il faut prendre au sérieux.
L'idiotie, moi je vous utilisez ce mot et c'est intéressant parce qu'évidemment ça fait partie des grands sujets de la création au XXe siècle, hein, c'est un des grands thèmes de la création, je vous renvoie au livre de Jean-Yves Jouannet bien entendu, mais c'est aussi une façon de déconstruire les règles, c'est une façon de s'affranchir des règles et pourtant il n'y a rien de grotesque dans son œuvre.
C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'on n'est pas dans glisser sur une peau de banane ou et même les chutes qui peuvent faire sourire, on sent que c'est pas ça qui anime, à mon avis, la chute. C'est pas ça qui anime la performance, ce côté grotesque, parce que pour évoquer, par exemple, celle où il va directement dans le canal, dans l'eau, il garde cette sorte de presque de rigidité, de raideur sur son vélo. Il y va comme si de rien n'était et sans des gestes, il n'y a pas des gestes de circassien. On n'est pas dans l'amusement.
C'est pas Charlot. Alors on va revenir là-dessus, mais je voudrais d'abord lui donner la parole et qu'on écoute ce qu'il avait l'intention de faire. En tout cas, il le déclare, c'est une des rares déclarations que l'on ait. Écoutons une phrase de Bastien Nader.
Je voudrais faire une œuvre où j'irais dans les Alpes et parlerais à la montagne. La montagne me dirait des choses qui sont toujours et nécessairement vraies, et je lui répondrais des choses qui sont parfois et accidentellement vraies.
On comprend que ce qu'il décrit, il ne l'a pas fait. Il n'est pas allé dans la montagne, il est resté sur des plats pays, soit en Californie, où il a fini sa vie, soit en Hollande, où il l'a commencé. Et en Hollande, il commence à l'école de d'art avec un grand artiste de l'époque, Gert Van Elck. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Est-ce que c'est le moment des dessins, où il épuise les dessins? Vous pouvez nous raconter cela?
Alors, moi, je suis pas un spécialiste de l'histoire de l'art, mais sur les éléments que j'ai trouvés, en tout cas qui m'ont fasciné, puisque j'ai trouvé qu'on y lisait peut-être les prémices de quelque chose à venir, c'est le fait qu'il est peu dessiné, mais surtout beaucoup gommé, donc en essayant de faire disparaître. Alors, avec probablement l'idée, je suppose, de vouloir un peu peut-être faire l'intéressant à cet âge où on a besoin un peu de s'affirmer, d'être original, mais avec voilà, ce geste d'enlever, de retirer, et avec, alors ça c'est après mon interprétation, évidemment, mais que quand on retire, on fait apparaître autre chose. Hein, comme dans cette fameuse œuvre de John Cage, sur le silence, 4 minutes 33, personne ne joue, mais on entend autre chose.
Et on entend tous les bruits du monde qui apparaissent, hein, dans cette œuvre essentielle. Alors, avant que nous écoutions le paragraphe dans lequel vous parlez de cette première œuvre, si je puis dire, il y a une chose sur laquelle je dois vous interroger, c'est que vous vous adressez à lui, vous le tutoyez. Alors, pourquoi avez-vous choisi ce stratagème?
Il n'est pas arrivé d'emblée.
Vous n'aimez pas le mot stratagème, je le remarque. Donc enlevons cela, mais en tout cas, c'est un choix.
Oui, c'est un choix. Et j'avais fait un premier texte pour une revue, et le texte était la troisième personne, et je décrivais beaucoup cette chute, et j'avais l'impression, en décrivant cette chute, de voir des choses que peut-être lui n'avait pas vues ou n'avait pas fait attention à tel ou tel détail, et j'ai eu l'impression d'entrer dans une sorte de petite conversation avec lui, ou d'adresse, comme vous l'avez dit. Et ce tutoiement, ça, j'ai eu l'impression que ça me permettait de m'approcher un petit peu de lui, sachant que jusqu'alors, moi, j'ai toujours écrit des textes qui étaient à la troisième personne, en réalité, qu'il était inenvisageable pour moi, là, de l'écrire à la première, mais que ce tu, c'était déjà une première manière de me rapprocher du jeu, et c'était une manière de m'approcher de lui en veillant... il y avait deux ou trois choses que je voulais absolument éviter, deux particulières. Je ne voulais pas qu'il y ait une sorte de distance ironique, qu'on puisse... parce que le tu ou le vous permettent de mettre une forme d'ironie, et je crois que j'en avais pas du tout envie. Il me semblait que ça correspondait pas
à... Ça ne correspond pas au personnage.
Voilà. Voilà, même si je crois que c'était un garçon avec de l'humour, évidemment, hein, mais en tout cas, dans ses œuvres,
il y avait... Il y a des grands humoristes qui ne rient jamais.
Oui, voilà.
Dans l'histoire du cinéma, par exemple. Écoutons Sophie Dole, notre comédienne, lire un passage de votre livre.
À un moment, tu as arrêté de dessiner pour ne faire que gommer. L'idée est venue en marchant longtemps, en faisant des détours pour rentrer chez toi. C'est répété dans ton esprit au réveil. Tu y as pensé en buvant une tasse de café ou de thé, ou au cours d'une de ces fêtes avec les autres étudiants dans lesquelles tu t'égarais parfois, étant là sans y être, à regarder les disques pour ne pas regarder les autres, à déambuler une bière à la main, à surveiller par la fenêtre la nuit au goût de canal. Elle s'est solidifiée en regardant la pluie laver les trottoirs, en lisant quelque chose sur Erased de Koenig, Drawing par Rauschenberg, en relisant quelques passages soulignés dans Melville ou dans Poe avec le frisson de la bonne idée. Tu as réalisé que tu te trompais sur ce qu'il pouvait sortir de ce bon cours de dessin. Ce n'était pas le dessin qui comptait.
Je suis avec Thomas Giraud pour parler d'un artiste que nous ne connaissons souvent pas, qui s'appelle Bastien Nader, un artiste des années 70, du XXe siècle, bien entendu, performeur. Et l'évocation de Melville, Thomas Giraud, ça évoque « je préférerais ne pas ». Cette phrase particulière.
De Bartleby, oui.
De Bartleby. Oui. Et donc, ce « je préférerais ne pas », c'est une façon de se contourner soi-même.
Oui, je crois. Enfin, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué dans des années de formation. Et je connais beaucoup d'artistes qui m'en ont parlé aussi comme d'un moment important dans leur construction.
Je confirme que ce moment de Bartleby intéresse les artistes.
Oui, oui.
C'est-à-dire comment contourner tout ce que l'on a avant. Et au fond, votre remarque sur Rauschenberg et sur le fameux tableau Erased de Koenig, c'est-à-dire ce moment où Rauschenberg prend un dessin que lui a offert de Koenig, ce qui était le grand maître de l'époque, qui avait une signification considérable, et l'efface et en fait une œuvre d'art d'une œuvre effacée, c'est évidemment pour un artiste comme Bastien Nader qui commence essentiel.
Oui, c'est ça. Enfin, il me semblait que dans ces moments de construction où on cherche un peu des repères, des fils, des directions à prendre pour trouver sa propre manière de faire, à la fois le doute, la procrastination qui est aussi une manière de ne pas oser se lancer aussi parfois, hein, ne pas faire pour histoire d'être sûr de pas rater, même si rater peut avoir...
La question du ratage va être très intéressante.
Oui, c'est ça. Surtout avec lui, parce que enfin, qu'est-ce qui est raté, et après, est-ce que quelque chose qui est raté mais qu'on n'a pas voulu rater, est-ce que c'est toujours raté? Enfin, c'est un peu interminable, mais il me semblait que voilà, cette œuvre, ce dessin effacé, tout ça rentrait dans cette construction possible, parce que évidemment c'est une reconstruction possible de sa vie.
Alors ensuite, vous évoquez un moment de son travail que je trouve extraordinairement intéressant. Il s'agit de marcher dans les rues en titubant et les yeux fermés à la menace vulnérable à tout ce qui peut arriver quand on se promène les yeux fermés dans la rue. Et j'aimerais bien qu'on écoute ce texte ensemble. «
on te voit marcher dans la rue, en fermant les yeux, sans mettre les mains devant, sans vérifier avant les obstacles, sans non plus essayer de les deviner par des pas prudents, par une plante des pieds, aux aguets, une attention particulière au bruit de tes pas ou à ceux qui viennent dans l'air. 10 secondes, 20, 30 secondes, jusqu'à 2 minutes. Voir ce sur quoi tu peux, dans tous les sens du terme, tomber. On s'écarte parfois pour te laisser déambuler, mais la plupart ne font pas attention à ce grand escogriffe qui marche les yeux fermés le matin, ou il se borne à des commentaires désabusés sur les ravages et les désastres que cette jeunesse dévergondée et folle approche de trop près. Il y a des coups de frein d'automobilistes surpris de te voir surgir, somnambule et à tâtons sur le passage piéton. Des invectives auxquelles tu ne réponds pas autrement qu'avec un port de tête altier, un beau sourire et les yeux fermés. Ça doit suffire.
À votre avis, Thomas Giraud, vous qui écrivez sur cet artiste en train et qui n'êtes pas spécialiste de l'art contemporain, vous n'avez pas de raison d'être familier avec les extrémités de la performance, le goût de l'inframasse. Qu'est-ce qu'un écrivain peut ressentir et accepter comme œuvre d'art d'un garçon qui marche les yeux fermés dans la rue?
C'est, je crois, un peu le surgissement, ce qui m'intéresse. C'est le moment où quelque chose va s'accomplir, ce qui se fait petit à petit, les chemins de traverse qu'on emprunte, et j'ai que ce soit par des essais dans son coin invisible, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on a nommé la chose art ou poésie, enfin ou peu importe, on est en train de le faire, et qu'il y aura probablement peut-être des œuvres plus réussies que d'autres, et moi j'ai l'impression, enfin j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui avance dans la manière de faire chez Bastien Hader, et ce passage qui est une licence que je me suis donnée, puisque c'est quelque chose que j'ai un peu inventé sur ces formes de pré-répétition de ce qu'il allait faire, de un peu de piste qui lançait cette marche comme ça, les yeux fermés, et il me semble que ça je la voyais bien, en tout cas cette petite performance, comme le point où il recherche la gravité, et dans presque dans tous les sens du terme, avec quelque chose qui reste encore presque un peu de peut-être un peu potache, mais pas tout à fait, peut-être potache pour les autres, parce que il est jeune, parce que ça bouleverse un peu les codes, même si ça bouleverse pas grand chose là, on sait bien qu'il y avait des choses plus brutales, enfin plus choquantes qui pouvaient
Moi je pense que c'est un travail sur le déséquilibre avec extraordinairement de finesse. Hein. Donc, je suis d'accord avec vous. Sans doute, les autres l'ont peut-être vu comme potache, mais quand on voit les films que vous avez évoqués dans votre livre, jamais on a un sentiment d'un potache. On est persuadé qu'il fait quelque chose de très important pour lui. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est de reprendre le vocabulaire dérisoire de l'idiotie, si je puis dire, mais d'en faire quelque chose d'important pour soi. Et au fond, ce qu'on peut espérer de la performance, c'est probablement cela, non ? C'est la transformation de soi par des choses que l'on intègre. Mmh. Alors, dans votre livre, j'aimerais bien qu'on l'écoute, vous parlez d'une des performances les plus connues, on est vers 1971, je crois, qui est une performance où il se tient à un arbre. Alors, on va écouter ce que vous écrivez.
Tu t'es courageusement arrêté devant un bouleau, près d'un ruisseau assez large, peu profond, avec quelques pierres et tout autour, une herbe froide mouillée. Tu t'es décidé, tu as choisi cet arbre, opté pour une branche. À environ 4,50 m du sol, tes jambes pendent dans le vide. Tes mains, plus haut, sont accrochées à la branche humide et glissante de l'arbre que tu as choisi. Elles avancent vers la partie la plus fine de celle-ci, celle qui se termine par le dernier bourgeon, là où, sous les pattes griffues des mésanges, la branche ploie. Tu sens le poids de tes jambes, cette aimantation que le ruisseau et l'herbe produisent. Tu te balances, en fermant les yeux, pour perdre un peu les repères. Le ruisseau en dessous, la forêt sur la gauche, l'herbe mouillée de part et d'autre du ruisseau. Tu te balances. Aussi pour ne pas regarder et savoir à quel moment la branche se brisera. Mais elle ne se brise pas. Elle ploie légèrement, c'est tout. Pendant quelques secondes, tu es encore maître de ce qui peut arriver. Tu pourrais rester sans bouger, repartir en arrière ou même te jeter. Et de façon un peu inattendue, on dirait que tu glisses, tu tombes. Tout à coup, tout s'arrête. En toi, autour, le temps, les pensées, c'est un silence irréel alors que tout est très réel. Et pour une fois, mais peut-être seulement parce que l'inattendu t'a pris de court, cette chute n'est pas très élégante. Tu as les jambes écartées, tu ressembles à une araignée surprise dans les airs et tu rencontres lourdement l'eau du ruisseau. Peter a tout enregistré. Le film est muet, mais on entend tout de ta réception brutale et maladroite.
Vous êtes sur France Culture et je suis avec Thomas Giraud, écrivain, pour parler de l'artiste dont il parle, Bas Yanader, son livre avec Bas Yanader. Thomas Giraud, on vient d'entendre cette page que vous avez rédigée sur le moment où Bas Yanader est suspendu à une branche d'arbre. Et il y a deux choses que je voulais vous demander. Est-ce que vous pensez qu'il avait décidé de tomber, ou est-ce que vous avez pensé qu'il décide de tomber au moment de le faire?
Je crois que dans cette chute-là, moi je l'interprète comme ça, parce qu'il a beau avoir répété les chutes, elles n'ont pas toujours, à mon sens, là, exactement la même signification. Moi, je vois dans celle-là une sorte de combat d'ordre philosophique, un petit peu entre le choix, la décision, la part de hasard aussi, et à écouter la lecture, j'entends bien ce que j'ai voulu dire sur tout ce qui est de l'ordre de la décision, puisque en fait c'est une chute qui est assez longue et
Et on voit assez long, ça veut dire deux minutes, un peu plus de deux minutes, je pense.
Oui, c'est ça.
Ouais, ce voilà, qui paraît ça. Long parce qu'il y a un suspense.
Il y a une sorte de suspense, on se demande qu'est-ce qui va se passer, et il va de plus en plus loin. Et avec, comme vous dites, est-ce que la branche va se briser? Est-ce qu'il va lui décider de sauter? Est-ce qu'il va revenir en arrière?
Puis on se demande s'il a pas mal au bras, oui, il doit fatiguer quand même.
Oui, et c'est l'hiver, on sent qu'il fait pas un temps très agréable.
Le loup va pas être chaude.
Non, c'est la fin de l'hiver. Et d'ailleurs, cette chute est étonnamment, alors qu'il aurait pu tomber droit, c'est ce qu'on a entendu dans la lecture, il tombe de manière un peu maladroite, comme si finalement il y avait la décision probablement de chuter, mais qu'il avait été pris de court, presque au dernier moment, surpris par l'instant où ça avait cédé. Puisqu'en fait, souvent dans les chutes, il est un peu question d'instant, de moment de rupture entre l'équilibre et le déséquilibre. Et
moi, je trouve qu'il y a un passage d'ailleurs dans le livre, mais on ne va pas l'écouter celui-là, qui est assez extraordinaire, c'est dans lequel vous interprétez la question de l'intervalle, c'est-à-dire c'est quand il lâche, sans cette chute-là ou une autre, il n'y en a pas énormément, hein, il y en a 4 ou 5, c'est comme s'il était mort. Mm. Il y a un intervalle dans lequel, comment est-ce que vous l'avez formulé? Rappelez-moi comment vous le voyez.
Je me souviens plus exactement mais de la formulation.
Ce que vous vouliez dire, vous en souvenez, Jean-Pierre.
Oui, bien sûr, mais entre le, je crois entre le bref instant où on est encore en équilibre et avant de tomber, enfin cet instant où presque comme quelqu'un qui va mourir en tombant, il y a une sorte de moment qui a encore de la vie, mais qui me semble une sorte de vie un peu diminuée, un peu différente, et que moi j'ai beaucoup associé, notamment à je sais pas si on en reparlera ou pas, mais à son père qui a été fusillé et qui est donc lui-même qui est tombé, et avec cette question qui a pas tellement d'intérêt, mais est-ce que il est mort quand la balle l'a touché ou est-ce qu'il est mort juste avant de tomber?
Mais je crois, il y a des photographies, il y a des photographies, on voit Bastien Nader dans les bras de son père. Il l'a connu, il est né en 42, Bastien Nader, hein, donc il l'a connu. Son père a été, comme vous l'avez rappelé, tué par les nazis. Sa famille était résistante. Ils ont caché des juifs pendant la guerre. C'était des justes, d'une certaine façon. Et donc, ils étaient véritablement héroïques. Et je voyais sur un petit film hier leur portrait à l'intérieur de l'église où il était peut-être prêtre. Je ne sais pas s'il y avait...
Il était pasteur, oui.
Il était pasteur, hein, c'est ça. Il était pasteur. Et donc, il a une importance pour la communauté. Et c'est vrai que cette idée de tomber sous les balles des nazis donne cette idée de la syncope que vous évoquez dans votre livre, cette syncope, cet évanouissement qui n'en est pas un, mais cette transformation de la conscience entre le moment où on lâche et le moment où on tombe, finalement. Mmh. Alors peut-être qu'on va écouter une autre chute, celle en vélo à Amsterdam, on est toujours en 71, je crois. Mmh. C'est un moment où, me semble-t-il, Bastien Nader est parti aux États-Unis et revenu à Amsterdam pour faire ce bref film.
Sue enregistre plus qu'elle ne filme, comme tu le lui as demandé. Ce doit être presque documentaire. Si tu n'avais pas choisi le silence, on pourrait entendre la bande de 16 mm vrombir légèrement. Les maisons endormies, le canal, des arbres en feuilles, le trottoir qui prolonge la route vide, tout est figé. Si ce n'est le frémissement du reflet des maisons dans l'eau. Un oiseau passe sur ses deux pattes. On le voit mal, mais il a la démarche bancale, mélange d'assurance fanfaronne et d'inélégance cuistre. Un pigeon, donc. Hirsute et ronchon se promène sur le bord du canal, là où celui-ci surplombe le canal sans barrière de protection. Quelque chose d'autre se déplace en venant du coin en haut à droite de l'image. C'est un cycliste. C'est toi. Contrairement au pigeon, qui claudique, tu es dressé comme un I, comme on l'est sur ces vélos hollandais avec leur assise haute, un peu raide, et qui donne sans effort un air grave et sérieux. Tu arrives droit au milieu de la chaussée, et puis tout à coup tu dévies, montes sur le trottoir, poursuis dignement cette diagonale. Quatre tours réguliers de pédale plus tard, toi et le vélo, vous tombez dans le canal. Tu es dans l'eau. C'est l'aube toujours et tu es trempé. Le film s'arrête, 15 secondes, et au montage, il n'en restera que 13.
Quelle performance magnifique et dans laquelle, effectivement, comme vous le disiez, il n'y a aucune drôlerie, il y a juste une beauté inéluctable, une fatalité d'une certaine façon.
Oui, oui, quelque chose qui presque irrémédiable, qui avance, qui continue comme ces performances où les gens vont tout droit sans s'arrêter, quelles que soient les barrières. Là c'est l'eau qui l'arrête. Et il me semble que le décor aussi, le fait que on sente qu'il y ait personne, qu'il n'y ait pas de mouvement, que presque tout soit immobile et silencieux, contribue à a apporté beaucoup de sérieux, je trouve, dans cette chute, que on pourrait très bien dans un film trouver drôle, mais je crois que c'est,
il y a éventuellement un léger sourire, mais c'est pas un sourire drôlatique, c'est un sourire, c'est plutôt, ça crée une bienveillance à son égard.
Oui, je crois que c'est, moi je la vois dans cette audace, parce que on voit bien que c'est pas un athlète, un sportif de haut niveau, un circassien qui va faire une cabriole. Il arrive comme il est, et donc effectivement, ça fait sourire, mais c'est très émouvant. Moi, je trouve que on est ému de se dire que, bon, déjà, il va être trempé, que ça va être désagréable, comme dans la chute précédente qu'on a évoquée, mais que peut-être il va se faire mal avec le vélo. Et en fait, il chute comme on pourrait tous chuter, en fait. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné, et pas du tout comme si on était face à un type extraordinaire qui pouvait faire des choses qu'on serait incapable de faire. Il chute comme vous et moi, même si on essaie, depuis qu'on est petit, d'éviter de chuter.
Alors, les auditeurs peuvent trouver sur le site de France Culture l'adresse sur laquelle on peut voir tous ces films. C'est des films d'une minute et demie, deux minutes. Il y a une petite compilation qui a été permise par l'Estate, la galerie. Et donc, tout ce que vous entendez est accessible sur notre site et vous pouvez le regarder en continuant d'écouter l'émission. Et alors, il y a un autre épisode. Donc, ils ont déménagé aux États-Unis, effectivement. Et là, il y a un moment où, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez nous le dire, Bastien Lader décide de mettre tous ses vêtements sur le toit de la maison, comme s'il vidait la maison. Racontez-nous.
C'est une performance qui est un petit peu différente des précédentes, même si on peut y trouver des liens. Et on voit des photographies de l'ensemble des habits, des siens, de ceux de Marissou ou Sou, qui sont jeté sur le toit. Alors il y a une robe qui est de mémoire, qui est accrochée à un cintre.
Oui, parce que visiblement il a fait attention à la robe de sa femme.
C'est ça. Je trouve qu'il y a une sorte de
tout le reste est balancé.
C'est ça, une sorte de délicatesse. Et ce qui moi m'a beaucoup surpris dans, alors on y voit une forme de dévoilement, hein, forcément on est à la fois il y a quelque chose qui est dérobé, dévoilé avec tous ses vêtements. C'était, pour moi, c'était presque une sorte de chute inversée, puisque c'est des vêtements qu'il a lancés du bas vers le haut, puisque c'est une maison, en fait, où il y a un rez-de-chaussée, il y a un petit toit, mais il me semble, à la manière dont les choses sont positionnées, qu'on devine que c'est vraiment du bas vers le haut que ça a été fait. Et c'était presque un peu l'opposé de ces chutes à lui, une sorte de miroir, mais qui permettait de voir tous ses habits et ce qu'on devine en creux, c'est-à-dire que si tous les habits sont là, peut-être que lui il est nu sans vêtements, nu, oui. D'un point de vue au sens propre et au sens un peu figuré, en fait c'est.
Mais je pense que c'est important ce que vous dites, parce que c'est un artiste qui se dépouille de ce que l'on voit, ses vêtements, ce sont des dépouilles. Et l'idée d'être dépouillé, c'est-à-dire d'être infiniment vulnérable, c'est vraiment un sujet de son travail, me semble-t-il.
Oui, non, c'est très juste. C'est ce mot dépouillé, me semble coller parfaitement. Je ne crois pas l'avoir utilisé moi dans mon livre, mais ça me semble très bien qualifier ce que moi je ressens, en tout cas, ce dépouillement.
Même de l'orgueil.
Oui. Et qu'il y a quelque chose de presque, religieux, enfin, pas religieux au sens d'une croyance qu'il aurait particulière, mais quelque chose de l'ordre de la modestie, face à quelque chose qui peut-être le dépasserait un petit peu, ce dépouillement, mais qu'on retrouve finalement dans la taille de ce bateau, qui est 3,81 m pour traverser l'Atlantique, là aussi. Donc dépouillé de tout ce qui pourrait permettre de parvenir facilement à quelque chose.
Oui, il est le pauvre parmi les pauvres, en fait. Mmh. Hein, donc écoutons une autre performance dont on va parler ensuite, qui est sur cette même toit de la même maison, sur laquelle il va installer au faîte du toit, juste sur exactement l'endroit où les deux pans de la maison se retrouvent, il installe une chaise.
Quand tu te laisses tomber du toit de ta maison américaine, ton corps tombe lentement. Tu es une poupée, tu es un autre, Tu es un mort qui s'écroule, un oiseau visé par une balle. Tu ne te retiens à rien. Ton corps a d'ailleurs une lourdeur particulière dans cette dégringolade que tu sens surtout à l'intersection des os. Des genoux, des hanches, des coudes extrêmement pesants, comme tout à coup remplis d'eau. On se dit que peut-être tu as failli tomber 10 fois en installant la chaise sur le toit. D'ailleurs, tu t'es fait un mal de chien ce jour-là.
Voilà, un artiste de la chute. Un travail absolument extraordinaire, ces chutes, et dans lesquelles il se fait à chaque fois mal. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'on sent l'hésitation. Il n'est pas débarrassé de la peur du résultat pour son corps. Il sait qu'il va peut-être avoir mal. Sans que ce soit un actionniste viennois, sans que ce soit une démonstration de la souffrance du tout.
Non, il n'est pas dans la démonstration de la souffrance, mais il l'accepte d'une manière ou d'une autre, enfin sans excès non plus. Il me semble, il sait qu'il va se faire mal, probablement modestement mal, mais peut-être se briser un os, se fouler à une cheville. Et cette chute qui a été évoquée, elle a du toit, on le voit tomber petit à petit et chuter lourdement, on imagine quelque chose d'assez lourd. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé, on trouve cette photo sur Internet où il est avec son épouse, où on le voit avec des béquilles. On voit que il y a bien des moments où les choses ont été pénibles pendant un moment, où il a fallu soigner les plaies, les bosses de ses chutes. Et ce que moi je trouve aussi très intéressant avec toutes ces chutes, et c'est de les évoquer comme ça, ça anime ce qui moi me tenait quand je les ai découvertes, c'est que à la fois c'est la répétition. Mais à la fois, il se joue, j'ai l'impression, quelque chose d'un petit peu différent dans chacune de ces chutes. Et dans celle-là, particulièrement, moi, j'ai eu l'impression que la mort était beaucoup plus présente dans cette chute-là, dans cette manière qu'il a de rouler sur le toit et d'être saisi brusquement. Alors que dans les autres, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça qui se joue nécessairement. Celle sur la branche d'arbre, je trouve qu'on est vraiment dans un rapport de l'ordre de la décision, sur le vélo, du déterminisme. Et dans celle-là, je la trouve extrêmement émouvante pour cette raison-là. Cette impression, que la mort est là. Et moi, elle m'a donné l'impression qu'il prenait une balle ou que son cœur s'arrêtait et qu'il roule en tombant.
Mais souvent, et vous le dites souvent dans le livre, vous avez la sensation, vous donnez la sensation qu'il explore le moment où la vie s'arrête et où il n'y a plus aucune chance, quoi, d'une certaine façon. Hein. C'est un peu ça. Alors, il y a une œuvre sur laquelle je veux vous interroger qui est très belle. C'est ce portrait, cet autoportrait dans lequel on le voit pleurer, grimacer un peu avec ce visage absolument magnifique. Et c'est cette œuvre qui s'appelle « I am too sad to tell you », qui est une œuvre curieuse parce que ce n'est pas un être mélancolique, c'est un être qui a un aspect un peu sombre avec lui. Mais la mélancolie n'est peut-être pas exactement ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je la trouve très belle aussi. Elle est à quelque chose d'assez étonnant, puisqu'en fait, il prend, même si ça dure évidemment pas 20 minutes. Hein,
ça dure 2 minutes et demie, c'est un gros plan sur le visage.
C'est ça, mais on voit les transformations du visage. Moi, je trouve qu'elle. Ce qui me touche dans cette œuvre-là, c'est, je crois, cette sensibilité qu'il expose, qu'il accepte d'exposer aux yeux de tous. Et il se dépouille là aussi, enfin, il se montre à nu, il se dépouille de ses larmes qui glissent sur lui, il a un visage presque un peu christique, presque à un moment donné, très, très humide, ruisselant, mais avec ce mystère de cette chose qu'il ne peut pas dire, puisqu'il est tellement triste qu'il ne peut pas la dire. Et il y a eu des moments où, donc, parce qu'évidemment, quand j'écrivais, je regardais régulièrement les vidéos pour essayer de comprendre des choses, peut-être pour tisser des liens entre ces différentes performances. Et elle a quelque chose d'assez éprouvant aussi, parce qu'on imagine peut-être, en tout cas, une douleur qui est là, quelque part, dont il est capable, en tout cas, une douleur qui est capable de lui faire produire des larmes assez facilement, donc une douleur qui, une blessure qui serait, en tout cas, pas tout à fait guérie, ou peut-être qu'en réalité, c'est simplement comme ça qu'il arrive à pleurer sur commande, hein, mais...
Il n'y a pas un rapport, une relation au langage, parce que c'est un artiste extrêmement silencieux. Il ne parle pas, les films sont muets. Et est-ce qu'il n'y a pas une relation au langage? Parce qu'on se demande à un moment donné si il n'est pas triste parce qu'il ne peut pas dire.
Oui.
Tout ça, tout est lieu. On a l'impression que c'est parce qu'il ne peut pas dire qu'il devient triste.
Presque. Oui, une forme d'impossibilité.
De raconter la réalité de l'être, quoi.
Et avec peut-être ce qu'il ne peut pas dire parce que lui-même ne sait pas tout à fait exactement ce qui pourrait le dissoudre, enfin ce qui pourrait tout à fait dire, peut-être qu'il, enfin une sorte d'ambiguïté entre à la fois cette impossibilité de dire qui est à la fois la cause et la conséquence de cette tristesse, mais c'est vrai que c'est quelque chose moi qui m'avait frappé et qu'on a entendu dans une des lectures, là, c'est ce silence qu'il y a dans toutes ses œuvres. Alors que, et même quand on retrouve des documentaires qui ne sont pas des œuvres, ou quand il va commencer à gréer un peu son bateau, ou c'est toujours silencieux.
Toujours silencieux, assez étrange. Ouais. Alors, une question, deux questions. D'ailleurs, il y a un de ses amis qui dit... J'ai vu un reportage, un de ses amis qui fait du vélo avec lui, donc un bon copain d'enfance, si je puis dire, et il disait sur ce film, je n'ai jamais vraiment parlé avec lui parce que son seul souci, c'est d'aller très vite.
Ouais.
Et donc, il ne parlait pas. Alors, une question, deux questions. Il y a ce cycle de trois œuvres qui s'appelle « À la recherche des miracles ». Et ce cycle... Dites-nous ce que c'est ce cycle, alors, ces trois œuvres-là.
Il est composé en trois parties. Une première partie qui est composée de 18 photographies prises la nuit à Los Angeles, en partant du haut et en arrivant jusqu'à la mer, avec des photos prises de nuit par Sou, où on le voit, lui, parfois avec une lampe de poche, à la recherche du miraculeux, à fouiller un petit peu. Deuxième partie, une traversée de l'Atlantique sur un minuscule petit bateau de 3,81 m qui s'appelle Ocean Wave, et avec un départ de Cape Cod près de Boston et une arrivée prévue en Angleterre. Et troisième partie, une chanson à aller lire, à aller chanter, pardon, avec une chorale dans un musée aux Pays-Bas.
Alors on va écouter ce que vous en dites justement. Pour que on puisse comprendre ces trois étapes très importantes, et vous allez nous dire ce que c'est que, ensuite ce que c'est que cette recherche de miracles.
Ces deux mois pour traverser l'Atlantique sont la deuxième partie d'une performance, In Search of the Miraculous, qui doit en comporter trois. La première, achevée il y a un an, est une marche dans la ville constituée de 18 photographies prises entre le coucher du soleil et l'aube et s'intitule One Night in Los Angeles. La troisième n'a pas de nom, pas encore en tout cas. Et c'est un trajet, probablement en ferry puis en autobus, de Falmouth en Angleterre aux Pays-Bas, au terme duquel tu dois chanter. Peut-être que ton discours inattendu sur les sirènes n'est pas sans lien avec ce chant que tu dois donner et qui, on le suppose, doit entretenir un lien ténu avec la mer, les écailles des poissons et donc, pourquoi pas, ces femmes poissons. La deuxième, c'est donc l'Atlantique. Toi, seul, sur un bateau dont tu affirmais qu'il était inapproprié pour une telle traversée. Un Goupy 13, un bateau de 3,81 m, avec deux petits hublots de chaque côté.
Alors voilà cette recherche du miracle, Thomas Giraud. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas la recherche du miracle, c'est la recherche du miraculeux. Est-ce que c'est le sens de toute la recherche de n'importe quel artiste, même d'un écrivain ? Est-ce que c'est le sens précis de sa recherche ? Qu'est-ce que vous comprenez ?
Ce que moi j'en comprends, c'est que lui, bon, il y a à titre personnel, il y a les choses qu'on réussit relèvent parfois, relèvent beaucoup de du travail, mais on a de temps en temps l'impression qu'il y a un moment de grâce qui nous échappe, dont on n'est pas tout à fait maître, et on pourrait y mettre du miraculeux derrière tout ça. Mais en ce qui le concerne lui, moi j'ai eu l'impression que cette traversée de l'Atlantique sur ce bateau inapproprié, trop petit, voilà, clairement trop petit pour accomplir ce type de choses, même s'il y avait des gens qui, avec des bateaux pas beaucoup plus grands, avaient réussi à traverser l'Atlantique. Mais en tout cas, sur ce bateau de 3,81 m, c'était une audace supplémentaire, quelque chose de, une sorte de soumission aussi à ce qui pouvait arriver. Et que
c'est ce fatalisme, advienne que pourra. Parce qu'il y a un fatalisme.
Oui, il me semble qu'il y a quelque chose, hein, effectivement, advienne que pourra, et que si on parle de miraculeux ou de miracle, on ne peut pas faire ça sans risque. Il faut un peu le susciter, en quelque sorte, le miracle. S'il était parti sur un grand voilier équipé avec d'autres personnes, ça aurait été très bien, hein, mais à mon sens, pour lui, il fallait qu'il y ait quelque chose qui presque le dépasse un peu, et que tout ne soit pas complètement entre ses mains. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des choses qu'il avait prévues, à manger, à boire. C'est quelqu'un qui savait faire du bateau assez bien.
Moi, je suis sûr que c'était pas un suicide, hein. Je pense que c'était l'espoir d'être sauvé.
Oui, moi, parce que c'est une question qu'on retrouve de manière récurrente. Mais son épouse, j'en ai pas parlé avec elle, mais on voit dans différents documentaires, elle répond à cette question. Elle ne pense pas que c'est un suicide. C'était probablement un garçon qui n'était pas. Moi, mon impression, mon sentiment, c'est qu'il n'était pas inquiet à l'idée de se confronter peut-être à la mort, de l'approcher, mais qu'il n'avait pas décidé de se suicider. Il existe des manières beaucoup plus directes et simples de le faire, mais en tout cas, qu'il avait laissé les choses ouvertes et avec la possibilité que ça arrive, mais aussi la possibilité que ça n'arrive pas.
J'ai le sentiment ça dans tout son œuvre. Alors, il y a ce moment dans la même série, à la recherche du miraculeux, In Search of Miraculous, où il va chercher avec des lampes électriques en faisant une longue promenade et en éclairant pendant la nuit tout pour savoir s'il n'y a pas un trésor qui va apparaître. Hein. Mais parfois, quand il est suspendu à une branche, on a l'impression qu'il y a un miracle qui pourrait se produire pour qu'il ne tombe pas. Et il tombe quand même. Et d'ailleurs, on a retrouvé récemment un film, j'ai vu, où on voit on le voit en vélo rentrer dans la mer. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui a été retrouvé récemment. Mais au moment du départ, il y a quelque chose qui va se passer, donc on va écouter ce que vous avez écrit.
Lorsque, faute de place, tu as renoncé à prendre quoi que ce soit pour t'enregistrer sur l'eau, Sue a pensé que tu renoncerais. Elle a trouvé ça étonnant, cette performance, ta performance. Sans personne pour la regarder, pour la commenter en train de s'accomplir ou plus tard. Une performance invisible, impossible à suivre, dont on ne pourra retenir que ce dont tu veux bien te souvenir. C'est-à-dire quelque chose qui compte assez peu dans une activité où il s'agit de révéler. Tu n'étais pas seul au départ de Cap Cod, et tu ne seras pas lors de l'arrivée à Falmouth. Mais le grand creux du milieu, où tout peut se passer, et où concrètement tout se passe, là où tu es tout de même censé chercher le miraculeux, c'est comme si ce grand creux, de plusieurs semaines sur la mer, ne comptait pas, ou ne méritait pas d'être vu entendu, sculpté, ausculté, vérifié. Pourtant, il n'y a que lui qui est important. C'est lui qui te fera dans tel ou tel état une fois arrivé.
Et donc, on voit qu'il va partir. Vous le disiez tout à l'heure, Thomas Giraud, on le voit préparer son bateau très soigneusement, son pilote automatique, qui est un aérien, comme on dit, dans le métier, et qui est un pilote compliqué à gérer et qu'il gère très bien. On voit tout de suite qu'il a une dextérité. Et c'est vous le racontez dans le livre, c'est un bateau dans lequel on ne peut ni s'allonger, ni se protéger.
Oui, on peut pas faire grand chose, et surtout lui, il était grand. Il est et c'est vraiment un bateau pour la croisière côtière, pas du tout pour s'élancer, pour être capable d'affronter même pas des vagues scélérates, mais qui.
Même une grosse mer, hein,
c'est une grosse
petite, c'est même pas une, c'est à peine une quille, hein, donc.
Oui, et je pense que ceux qui ont une pratique de la navigation voient tout de suite que c'est que ça sera compliqué, et même quelqu'un qui a assez peu d'idées, quand on voit les images, c'est assez étonnant. On se demande comment il va réussir à se plier pour rentrer là-dedans, se protéger un petit peu, même de temps en temps être au sec, tout en ayant évidemment, il part de moi, de la nourriture, de l'eau.
Alors, qu'est-ce qu'il a pris ?
Alors, en fait, il voulait prendre plus de choses que ce qu'il n'a pu prendre. Bon, il a, je crois, quelques habits de rechange, des brosses à dents. Il avait 3 mois d'eau et 2 mois de nourriture.
C'est une traversée qui dure normalement 5-6 semaines.
Oui,
si on dérive, c'est entre son bateau est si fragile que c'est quasiment une dérive. Enfin, oui. c'est 3,5 nœuds, quoi, grosso modo.
Mm-hmm.
Donc, moyenne.
Oui, donc c'était moi, ce qui m'avait assez troublé, mais c'est peu importe à la rigueur, mais c'est que ça dit quand même beaucoup de choses. Il avait un sextant en plastique aussi qu'il avait emporté avec lui, et il y a quelque chose d'un petit peu dérisoire dans cet instrument de mesure qui soit en plastique. En tout cas,
ils sont comme ça maintenant. Ils sont légers, hein.
Oui, c'est ça. Je trouvais que ça, le fait qu'ils soient en plastique donnait l'impression de quelque chose de qualité, on va dire assez moyenne, alors que peut-être pas en fait. Hein. Et donc il avait ces choses-là, c'est-à-dire en réalité pas grand-chose, mais avec aussi, il avait été précautionneux, il avait sa carte d'identité, sa carte d'assuré social, sa carte d'enseignant, tout ça dans des petits paquets plastifiés pour que si jamais on retrouve le bateau.
Donc il était à la grâce de Dieu, le bateau a été retrouvé longtemps plus tard, simplement donc à la verticale, hein, seule l'étrave dépassait,
ouais.
Ensuite, curieusement, il a été déposé.
En fait, le bateau, c'est des marins espagnols qui ont retrouvé le bateau en mer d'Irlande, qui l'ont rapporté à la Corogne. Alors, en fait, il existe un certain nombre de procès-verbaux du moment où ils ont retrouvé le bateau et des différentes procédures qu'ils ont dû mettre en œuvre. Et en fait, il y a un grand nombre de procédures au cours desquelles, c'est assez drôle, son prénom change, est un peu espagnolisé. Il s'appelle Bastian. Ce qui est le plus saisissant, c'est que ce bateau donc, qui est ramassé, qui a passé un moment dans l'eau, hein, qui ne vaut certainement plus grand-chose en tant qu'embarcation, il est mis de côté pour que notamment le frère de Bass et son épouse viennent récupérer ou voir ou valider, ou avec l'idée aussi de peut-être essayer de comprendre comment il a peut-être disparu. Est-ce qu'il y a des indices ? Mais le bateau va disparaître et son bateau ne sera jamais retrouvé. Donc en fait, il y a une sorte de... Parfois, on a l'impression que la réalité est
construite.
Oui. Est presque irréelle, en fait. Ouais. On a l'impression que c'est une fiction à laquelle personne ne va jamais
et croire. Et ça a aidé le mythe, ça a permis au mythe de se développer. Mmh. Et donc, moi, j'ai trouvé extrêmement beau, et le fait que beaucoup de gens pensent que aussi qu'il n'était pas... libre, et puis qu'il se soit livré d'une certaine façon à la grâce de Dieu. Hein. Il y a un côté à la recherche d'un miracle. Le miracle n'a pas eu lieu, mais c'est normal. L'artiste est toujours à la poursuite d'un miracle qui n'a pas forcément lieu. Et Et donc, vous avez trouvé que c'était une œuvre importante pour vous dans la série des artistes ou des personnages fugitifs, ou pas d'ailleurs, que vous évoquez dans vos livres, puisque c'est le quatrième livre que vous faites.
Pour moi, ça a vraiment été quelqu'un d'important. Peut-être parce que il y avait des échos chez lui de probablement d'un certain nombre de soit d'écrivains, soit d'auteurs ou soit d'œuvres qui me plaisaient beaucoup. Il y a quelque chose un peu de Rimbaud, enfin qui est avec une carrière fugitive brève mais un peu extraordinaire, un peu le feu follet de Drieu La Rochelle. Enfin, il y a une espèce de vie qui semble un peu brûlée par les deux bouts. Donc oui, il a beaucoup compté. C'est un livre dont j'ai mis du temps à trouver la forme que je voulais lui donner, mais parce que je crois que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup 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 touché, beaucoup beaucoup ému, et que j'avais pas non plus envie que cette émotion qui suscitait chez moi, je voulais essayer de la retranscrire, mais je voulais pas que ce soit un livre avec trop de pathos ni quoi que ce soit.
C'est pas le cas, c'est un livre vraiment très réussi. Merci beaucoup Thomas Giraud de nous avoir emmené avec Bastien Nader. C'est une très belle histoire, et on va terminer cette émission en écoutant la fin du voyage.
Merci beaucoup.
On pourrait écrire que tu t'es noyé, mais on dit que tu as disparu. C'est plus acceptable. L'expression permet de taire ce qu'il y a eu de terrible. Dans ces quelques heures où la mer, le vent, le ciel teinté de violet, de marron, de couleurs étranges, dissimulés par des pluies diluviennes qui tombaient, se sont mélangés avec ardeur. D'abord entre eux, ensuite à ton bateau, et enfin à toi. Tout ça a dû t'effrayer. Peut-être te donner des regrets sur certains choix, peut-être pas. Peut-être que tu t'es blessé, et que tu as eu mal aussi. Dire que tu as disparu soulage un peu, évite les détails. Les minutes froides dans la mer, longues et les plus courtes, des secondes même.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'Art et la Matière, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu l'écrivain Thomas Giraud à propos de son livre Avec Bastien Nader aux éditions de la Contre-Allée. Vous retrouverez les références des musiques, des films et des livres sur le site franceculture.fr. Une émission conçue en collaboration avec Sam Boutata, lecture des textes Sophie Doll, recherche documentaire Maureen Roy, prise de son Félix Delacour, merci Félix, réalisation Anna Olvek.